Donc, on va prier, puis après ça, on va voir un peu c'est quoi l'idée de. Après ça, on va voir l'idée de que je veux partager avec vous ce soir. Seigneur Dieu, tu es un Dieu saint, un Dieu merveilleux, un Dieu qu'on veut, de qui on veut s'émerveiller chaque jour, Seigneur. Puis, on veut que ça change nos vies. On veut que ça dirige notre existence, Seigneur, dans l'avancement de ton royaume, puis en observant ta volonté, Seigneur, en soumettant à ta volonté. En nom de Jésus. Amen. Voici le plan de ce qu'on va faire ce soir. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que non, hein? C'est petit un peu. Oui? Ouais. Avec Lucie, on a toujours l'heure juste. Le plan ce soir, on va commencer par une brève introduction. Ensuite, on va voir. Ensuite, on va voir la volonté puis le royaume de Dieu, mais face à nous-mêmes. Après ça, on va s'orienter vers la volonté puis le royaume de Dieu face à Dieu. Et puis, on va faire une parenthèse sur notre identité à travers de ça. Et puis, comment ce modèle de prière s'applique. C'est un peu ce que je veux faire avec vous ce soir. Donc, le texte que je veux regarder avec vous, c'est Matthieu au chapitre 6 et à partir du verset 9, à la moitié du verset 9. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous savez, depuis un certain temps, avec Will, bon, un peu un suivi de ce qu'on avait vu à Sola, on a commencé à avoir des soirées de prière. On a fait un peu la même démarche au Camp Brochet, puis je vous le dis, c'est écœurant. J'aime tellement ces temps-là, c'est vraiment merveilleux. Puis il y a une constante que j'ai observée à travers ces temps de prière-là qu'on a eus. En dehors ou en plus de l'expérience enrichissante qu'on a eue à travers de ça, il y a une réflexion qui m'est venue. C'est beau avoir des beaux temps de prière dans lesquels on s'en remet à Dieu, dans lesquels on dit des belles choses à Dieu, basées sur des textes bibliques. Mais qu'est-ce que ça change dans ma vie, ces temps de prière-là? Qu'est-ce que ça reflète de ma vie quand je prie à ces occasions-là? Qu'est-ce que les paroles que je dis reflètent de ma vie? Qu'est-ce qui ressort un peu du modèle de prière qu'on a vu autant dans les temps de prière avec Will que dans ce texte-là? Je l'ai un peu séparé le texte de cette façon-là, parce que je voyais ces choses-là qui ressortaient du texte. Qu'est-ce qui est constant dans le modèle qu'on utilise avec Will, puis dans ce modèle-là aussi? La première des choses qu'on voit, c'est l'adoration envers Dieu, la première partie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ensuite, on voit de la dépendance de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et puis là, j'ai ajouté une encoche avec la prédication qu'on a eue ce matin. Le troisième point, j'ai ajouté mon ministère de réconciliation au travers de ça, qui dit pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Puis le quatrième point, j'ai écrit soumission envers son autorité, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Pourquoi un texte sur la prière quand on parle d'application? j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est quoi ça la prière? Mais pas pour apprendre comment prier. Je veux pas qu'on parle à soir de qu'est-ce qu'on doit dire, pas dire. Ou je veux vraiment étudier l'aspect pratique de la prière. Est-ce que c'est juste une discussion avec Dieu, une occasion de remettre nos requêtes, un moyen de transformer concrètement sa vie? Je crois que c'est un peu tout ça. Prière et vie transformée, c'est intimement lié. La prière est une démonstration de notre théologie. Si on prie quelque chose et qu'on n'y croit pas, ben, on se met à nous-mêmes ou on met à Dieu. On essaie peut-être de faire coller à Dieu des choses qu'on n'est pas vraiment. Ou à nous. La prière n'est pas supposée être seulement des mots. Elle devrait refléter notre façon de vivre, ou du moins la diriger. Puis ce qui est intéressant, c'est que la prière que Jésus est en train d'enseigner est incrustée au centre d'un paquet d'instructions sur la vie chrétienne. Donc, ce n'est pas par hasard que c'est incrusté à travers de ça. Jésus n'a pas sorti une idée en plein milieu de nulle part à un moment donné en courant d'un discours. Son discours fait du sens. Et puis, sa prière est incrustée au centre des instructions sur la vie chrétienne. Puis quand on regarde comme faut les paroles de cette prière-là, on s'aperçoit qu'appliquer cette prière-là, ça devient très dangereux pour nous. On va voir dans quel sens. Tiré de notre texte, j'ai sorti le titre suivant. Quel royaume je fais progresser? Puis juste ce titre-là, ça propose deux choses. Ça propose qu'il y a au moins plus qu'un royaume qu'on peut faire avancer, vrai? Je peux au moins en faire avancer deux. La Bible nous dit qu'il y en a deux qu'on peut faire avancer, pas 50. Parce qu'il y a peut-être, je ne sais pas moi, 200 religions sur la terre, puis c'est pas 200 différentes façons de venir, puis une façon pour... c'est pas 200 façons humaines, puis une façon divine. C'est une façon, puis une façon. Une façon pour venir, une façon humaine de faire avancer son propre royaume, et puis une façon de faire avancer le royaume de Dieu. Donc, volonté royaume numéro 1, moi-même. Si on regarde le texte qu'on a ici, Matthieu au chapitre 6, puis qu'on compare ça avec Ésaïe au chapitre 14, je vais juste le lire rapidement. Si vous voulez tourner, ça peut être intéressant pour vous aussi. Ésaïe au chapitre 14, à partir du verset 13. Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Est-ce que c'est Jésus qui dit ça? Non, selon toute apparence, c'est Satan lui-même. C'est les paroles du diable. Puis on voit là une volonté égoïste de faire avancer ses propres intérêts. Puis quand nous, on fait la même chose, qu'on veut faire avancer nos propres intérêts, qu'on a notre petit royaume qu'on essaie de faire avancer, on démontre un égoïste de la même façon que Satan l'a fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en seulement deux versets, on voit cinq « je ». Puis ça, je crois que c'est un mode de faire, un mode de penser, un mode de très, très dangereux. James Montgomery Boyce, un auteur que j'aime beaucoup, dit ceci. « Une vie de rébellion envers Dieu amènera ni joie ni bonheur, mais seulement de la misère. Il n'y a pas de vie, pas de joie, pas de paix, pas de bonheur ou quelque bonne chose qui soit en dehors de la complète dépendance et une soumission volontaire à Dieu. Je pense que ça dit ce que ça dit. Pour beaucoup de chrétiens, la prière est devenue une façon d'obtenir ce qu'on veut. Puis, c'est pas pour rien que j'ai fait exprès pour mettre, vous voyez peut-être le rond vers la porte du château. À l'époque du Moyen-Âge, le château, c'était la place où est-ce qu'on allait chercher beaucoup de choses. Les paysans se rendaient au château pour aller chercher sécurité, certaines nourritures, certains biens. Dès qu'il y avait des gens dangereux qui s'approchaient de leur village, ils s'isolaient dans le château pour mieux se défendre. C'est ce à quoi ça servait. Les gens allaient au château pour chercher ce dont ils avaient besoin. Puis les chrétiens se servent souvent de la prière de cette façon-là aussi. Souvent, on a la même approche. On en est venu à croire que Dieu est obligé de nous donner. Ah, j'ai cru en toi, Seigneur, je t'ai donné ma vie, fait que maintenant, give, give, give. Donne-moi ça. Dieu doit faire preuve de bonté. Moi, j'ai donné ma vie. Il faut qu'il me fasse preuve de bonté. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on entend souvent parler de cet évangile-là de prospérité, c'est-à-dire Dieu m'aime, donc il va me donner ce dont j'ai besoin, il veut la meilleure vie pour moi, il va me donner ce que j'ai besoin. Puis on trouve ça un peu rigolo, hein, c'est loin de nous autres, ça, c'est au Texas, Joel Osteen, qui est un peu le grand pape de cet évangile-là, il est loin, il est au Texas, ça c'est loin de nous autres, on trouve ça un peu rigolo, mais quand on analyse vraiment notre façon de prier, notre façon de vivre, en lien avec notre prière, notre façon de parler à Dieu, on s'aperçoit que nous-mêmes, on fait souvent cette démarche-là. On entreprend souvent cette démarche-là. Puis, cette semaine, j'ai eu beaucoup de problèmes à préparer cette prédication-là parce que j'analysais nos temps de requête qu'on avait dans nos cellules puis tout ça. Puis, je m'aperçois que j'étais dans le trouble à ce moment-là aussi. Parce que je m'aperçois que moi aussi, mes temps de requête, là, c'est « Ah, Seigneur, j'ai besoin de ci, j'aimerais ça, j'ai besoin de ça. » C'est tout le temps faire avancer mon propre petit royaume à moi, jamais faire avancer le sien. Puis nous, on vit dans une société de consommation. On est dirigé continuellement vers ce qu'on veut de mieux. Il y a un nouvel iPhone qui vient de sortir. J'ai les 4 premiers avant, mais je veux celui-là encore. Je veux tout le temps le mieux, je veux tout le temps le mieux. On consomme toute chose, puis après ça, on jette, on débarrasse, puis on passe à l'autre appel. Puis ça va faire en sorte aussi que tout trouble, tout problème, tout effort, toute blessure qui est amenée par une situation, ben on va avoir tendance à la mettre de côté puis à dire « Seigneur, c'est pas normal, là. Faut que je sorte de là, moi, le Seigneur, je suis en train de vivre ces affaires-là, ça m'amène du trouble, des blessures, il faut que tu me sortes de là. » Puis le problème dans ça, c'est que ça inverse les rôles. C'est maintenant l'homme qui devient souverain, puis c'est Dieu qui devient le serviteur. L'homme dit à Dieu, j'ai besoin de ci, puis c'est Dieu qui devrait fournir, c'est Dieu qui devrait donner ce qu'il a besoin. C'est complètement l'inverse qui devrait être. On est ici, l'Église, pour faire avancer ce royaume-là de Dieu. C'est pas normal que nous, on soit ceux qui fassent plier Dieu, qui soumettent Dieu. Bon, maintenant, ça, après avoir dit tout ça, là, je ne veux pas vous décourager, mais il est vrai aussi que Dieu veut qu'on soumette nos requêtes. Il y a des textes très clairs qui disent que Dieu, il se plaît à ce qu'on vienne à ses pieds et qu'on lui remette nos requêtes. Par exemple, si on regarde notre texte, on voit que au verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Puis là, c'est drôle parce que si on lit juste ce verset-là, on a l'impression que je suis en train de faire le contraire de ce que je viens de dire. Là. Mais lisez le verset 10 avant. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Puis après ça, ben, tu sais, donne-moi. Pourvois, je suis dépendant de toi parce que ta volonté et ton règne avancent. C'est pas la même idée, c'est pas la même arrière-pensée derrière les requêtes. Le ton, c'est plutôt je veux que tu règnes, que tu fasses avancer ta volonté en général puis dans ma vie personnelle, puis ensuite, je dépends de toi en plus. Pour mes besoins, pour le pardon, pour la lutte au péché. Puis il y a d'autres textes aussi qui confirment que Dieu veut qu'on lui soumette nos requêtes. Philippiens 4, 6. « Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Mais, donc Dieu veut qu'on lui soumette nos requêtes. C'est vrai, je suis d'accord. Ces requêtes doivent cependant tenir compte de deux choses. Nos requêtes doivent demeurer dans la soumission et dans la dépendance à la volonté de Dieu, comme c'est le cas dans notre texte. Puis le deuxième, c'est quand il est question de requêtes, pour Dieu, le plus important, ce n'est pas nos besoins matériels, mais c'est l'Esprit qui nous guide. Si on lit juste le passage après, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Intéressant qu'il dit, il dit pas, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce, et Dieu vous les donnera certainement. Non, non, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Un autre passage aussi qui est intéressant, une autre petite réflexion que je veux vous apporter, c'est en Matthieu 7, 11. On est proche en plus. Matthieu 7, 11, qu'est-ce que ça dit? Ça nous parle des inquiétudes. Puis toutes ces choses-là, comment réagir face aux inquiétudes. Puis là, Jésus leur dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Donc, moi, Éric Desaunier, je donne des bonnes choses à ma fille. Je donne des bonbons, je lui achète du beau linge, je lui donne... Je la mets dans une maison dans laquelle, dans une chambre dans laquelle, qui va être à son goût. Je la mets. C'est ça que ça dit. Dieu va lui donner des bonnes choses. Comme moi, je suis un bon père avec ma fille, je lui donne des bonnes choses. Puis si on regarde le même passage, mais rapporté par un autre évangéliste, Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 13. Ça dit, encore dans la même chose, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? » Là, il n'est plus question de donner une belle chambre à ma fille, puis de donner du beau linge à ma petite fille. Il n'est plus question de ça. Là. Il est question de... Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, ce que le Père Céleste va faire, lui, c'est vous donner l'Esprit qui va vous diriger dans vos décisions, dans l'avancement du royaume de Dieu, toujours. C'est toujours dirigé vers là. Pas dirigé vers des bébelles qu'on peut demander, parce que nous ici, on est beaucoup orientés vers le matériel, là, mais vers de l'avancement dans ma carrière ou dans toutes sortes de choses. Quel genre de carrière, Seigneur, tu veux que je fasse? Quel genre d'épouse que tu veux que j'aie? Quel genre de... Toutes ces choses-là. C'est pas orienté vers ça. C'est, Seigneur, c'est l'Esprit qui va nous diriger à suivre sa volonté. Puis ces choses-là vont être en lien avec ce que l'Esprit veut pour nous. Envers la sainteté que Dieu nous demande d'avoir. La volonté numéro 2, ou le royaume numéro 2. Dans le modèle de prière qui est démontré dans Matthieu 6, il est question de se soumettre à la volonté de Dieu. Pourquoi? Pourquoi se soumettre à la volonté de Dieu? Dernière chose que je sais, c'est lui le Créateur. Donc, on peut-tu laisser Dieu être Dieu, puis laisser gérer ça? Matt Chandler, un de mes prédicateurs favoris actuellement, il dit, « Le fait que Dieu est pour Dieu et que Dieu est pour la gloire de Dieu est la plus grande nouvelle de l'univers. C'est la plus grande nouvelle de l'univers parce que si Dieu est pour Dieu, si Dieu est à propos du fait que vous soyez saints en Jésus-Christ et qu'ainsi il puisse démontrer son excellence, que vous annonciez son excellence et que vous rendiez sa bonté et sa grâce prestigieuses, ses commandements ne seront pas à propos de vous soumettre à sa volonté à contre-cœur, mais plutôt du fait qu'en les observant, vous marcherez dans la vie de plénitude et d'abondance qu'il offre. » Donc, lorsque Dieu dit « Faites ces choses », Dieu ne souhaite pas vous soumettre malgré votre volonté, car Dieu est pour Dieu. Dieu veut que vous marchiez dans ce qui vous amènera dans une joie complète, pas toujours dans le plaisir, qui est un sentiment passager, en passant, mais dans la joie, qui est plutôt un sentiment permanent, de façon à ce que lui seul soit élevé. C'est donc une bonne chose que Dieu soit pour Dieu. C'est une bonne chose que le désir de Dieu pour la sainteté soit à propos de l'excellence de son nom. Je ne peux pas trop affirmer cela. La meilleure partie est que si Dieu est pour Dieu, ultimement, la vie n'est pas à propos de vous-même. Cela peut vous sembler offensant, mais c'est une très grande nouvelle. Là, maintenant, je crois qu'il devient important de faire notre fameuse parenthèse et d'éclaircir une chose. Qui on est, nous? 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Non, c'est pas de suite. Vous savez, quand quelqu'un vous demande de vous décrire, bon, il y en a qui vont dire, moi, je suis un désaunier, ou je suis un Piou, ou je suis un Lefebvre, ou je suis un La Rochelle, ou il y en a certains qui vont dire ça vite. D'autres vont dire, ah, moi, je suis un Canadien, je suis un Américain, je suis un Allemand, je suis un... Mais la plupart du temps, ce que les gens vont répondre, c'est, ah, moi, je suis un joueur du Canadien, moi. Moi, je suis un plombier, je suis un ouvrier, je suis un ambulancier, je suis un dentiste. Ça veut dire souvent, les gens vont se décrire par ce qu'ils font. Les gens vont déterminer le genre de vie. Les gens vont déterminer que le métier qu'ils font, ça va déterminer leur genre de vie qu'ils vont avoir. Est-ce que ça, c'est une bonne analyse ou c'est une erreur? Puis là, c'est là qu'on va observer notre fameux texte dans 1 Pierre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et maintenant avez obtenu miséricorde. Vous faites partie d'un peuple mis à part par Dieu puis pour Dieu. Puis la lettre de Pierre, dans son entier, dit justement, vous êtes le peuple de Dieu, agissez comme tel. Ayez une vie chrétienne qui va démontrer ça. Votre identité maintenant ne vous appartient plus. Vous n'êtes plus un Canadien comme le passeport le démontre là. C'est celle de Dieu, c'est celle de Jésus-Christ, votre identité maintenant, qui s'est acquise par son sang. Votre identité ne vous appartient plus, c'est celle de Dieu, celle que Jésus-Christ s'est acquise par son sang. Celle qui est supposée, du moins, être dirigée par le Saint-Esprit dans un processus de transformation à l'image de Dieu. Ce n'est pas ce que vous faites qui détermine qui vous êtes. C'est qui vous êtes qui détermine ce que vous allez faire. Puis je veux vous montrer deux textes qui viennent à cette même conclusion. Et tout cela, en 2 Corinthiens au chapitre 5, versets 17 et à 20, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ maintenant, comme si Dieu exhortait par nous. Nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et Philippiens 3, 17 à 21, c'est beaucoup trop petit. Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans un Dieu. Dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc là, les deux royaumes là, sont directement mentionnés et opposés dans ce texte-là. Comment ce modèle de prière-là qu'on a vu en Matthieu 6, maintenant il s'applique? Vous savez, si Joseph, en Égypte, il avait refusé de se plier à la volonté de Dieu, puis il avait dit, « Seigneur, libère-moi de là, libère-moi de là, libère-moi de là. » Ben, il aurait peut-être manqué la volonté de Dieu. La vraie volonté de Dieu, c'était qu'il reste là, puis qu'il continue à vivre dans la dépendance de Dieu. Puis à cause de ça, toute sa famille allait être sauvée. Vous rendez-vous compte que s'il n'avait pas voulu se plier à cette volonté-là, à ce qui était en train de lui arriver, pas voulu continuer de dépendre de Dieu malgré la situation dramatique qui était en train de lui arriver, il y a plein de choses malheureuses qui seraient arrivées à sa famille. Puis il n'aurait pas été avantageux pour Paul non plus de refuser la volonté de Dieu dans la prison à Philippe. S'il avait décidé de s'entêter puis de dire, moi je suis ici, je suis un citoyen romain, je n'ai pas d'affaires ici, sortez-moi d'ici, ça presse. Puis quand les chaînes se sont sorties, je me sauve d'ici, puis c'est pas ça qu'il a fait du tout, lui il restait là. Ils ont chanté des cantiques alors qu'ils étaient torturés, ils sont restés emprisonnés quand les chaînes se sont libérées, ils ont convaincu tous les autres prisonniers de rester là aussi, puis à cause de ça, le geôlier de la prison il est sauvé, puis sa famille était sauvée. Puis il n'y aurait peut-être pas eu d'église à Philippe si Paul n'aurait pas fait ça. Ils ont fait passer la volonté de Dieu, sa souveraineté, le royaume que Dieu a à faire avancer avant leur propre volonté, leur propre royaume. Puis d'un autre côté, il y a le mauvais exemple aussi. Je sais que l'histoire a bien fini en fin de compte parce que Dieu est Dieu, puis Dieu il a été gracieux envers Ruth, entre autres, et Naomi. Mais, excusez l'expression, mais quelle idiotie ce père-là a fait. Le mari de Naomi, il s'est sorti d'un contexte dans lequel il était au centre du peuple de Dieu, avec des gens du peuple de Dieu, dans lequel il était dans un contexte qui pouvait continuer d'adorer le Seigneur. Il s'est sorti de ce contexte-là pour s'en aller dans un contexte idolâtre, dans lequel il a mis sa femme, ses deux garçons, ses deux belles-filles éventuellement dans le trouble. Naomi, ses deux belles-filles se sont ramassées plus de mari, plus de beau-père, plus personne pour subvenir. Naomi, humiliée, est obligée de revenir chez eux parce que lui a décidé que son petit royaume était important, son avancement à lui était important. Parfois, ça veut dire de suivre la volonté de Dieu, de chercher son royaume, ça veut dire de rester dans le contexte qu'on est. Parfois, ça peut vouloir dire d'en sortir. C'est là que prier, que l'Esprit nous guide, c'est là que ça devient important. Soyez préoccupés à faire avancer le royaume de Dieu avant le vôtre. Soyez soumis à la volonté de Dieu dans votre vie, même si c'est à compte courant. Puis là, vous allez réaliser combien cette vie-là va vous sembler plus satisfaisante Parce que votre satisfaction, elle ne va pas être limitée en vous, elle ne va pas être limitée à votre durée de vie sur l'échelle du temps. Sur l'échelle de votre existence, c'est tellement mineur. Puis votre satisfaction ne va pas être limitée à votre durée à vous, elle ne va pas être limitée à vos petites capacités. Maintenant, ça va être tellement plus grand. Ça va être dans 6 millions d'années d'ici, dans l'éternité future. Le royaume que je fais avancer, si je fais avancer le royaume de Dieu, ça va être encore payant, rendu dans 6 millions d'années d'ici. Faire avancer le royaume, je pense à... Certains connaissent peut-être ici Roberto Lafrenière. Depuis quelques années, il passe beaucoup de temps à l'hôpital et va, vient, des problèmes cardiaques, je crois. Puis... au lieu de dire « Seigneur, pourquoi tu m'envoies ici? Je suis tanné d'être malade. Libère-moi de cette maladie-là. » Il est rendu qu'il fait son ministère à l'hôpital, puis il est rendu qu'il essaie de convertir les gens à l'hôpital, puis de faire avancer le royaume de Dieu dans le contexte auquel il est placé. Là, on voit une perspective qui est complètement différente. Dans mon contexte à moi, le royaume de Dieu et la volonté de Dieu, moi, se sont révélés à travers les choses que moi-même j'ai vécues, à travers de mon divorce, à travers de ma perte de mon emploi, à travers de ma mère qui a eu deux cancers. Là, je pourrais vous en nommer des choses qui me sont arrivées depuis entre 8 et 10 ans. Avancer son propre royaume, je vous le dis, là, c'est vraiment très précaire. Quand ça commence à s'écrouler, on n'a plus le contrôle, il n'y a plus moyen de retenir ça puis d'arrêter tout ça. Puis toutes ces choses-là m'ont amené à saisir que dans chacune de ces choses-là, l'Esprit de Dieu m'a transformé. Puis là, je ne vous dis pas que je suis meilleur que vous autres, je me suis juste ramassé dans des situations et puis on est dans des situations à un moment donné où est-ce qu'on peut juste dire je te laisse ça, Seigneur, je n'ai plus rien que je peux faire de toute façon. Puis je vous le dis, il ne m'a jamais fait défaut. Dépendre de lui, ça fait, c'est la chose la plus satisfaisante que j'ai apprise dans toute ma vie. Vous voulez des exemples de... Vous voulez des exemples de comment faire avancer le royaume de Dieu? Puis là, j'ai fait exprès pour... vous n'avez peut-être pas vu vite fait le chapeau melon, là, mais si le chapeau vous fait, mettez-le. Je donne des exemples. C'est pour vous faire réfléchir. Donc, je veux juste que vous réfléchissiez à ça. Pour les époux et pour les papas, c'est quoi ça, faire avancer le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous préoccupe tellement que vous allez vous détourner de vos responsabilités envers votre épouse et envers vos enfants? Votre travail? Votre carrière? Vos amis, vos inquiétudes face à l'argent, vos activités. Puis là, je vous dis, cette semaine, j'ai eu des mauvais moments à écrire ces paroles-là. Qu'est-ce qui compte plus pour vous que le fait de désirer le bien-être spirituel puis physique de votre femme puis de vos enfants avant le vôtre? Puis ensuite de ça, d'être un témoignage de la volonté de Dieu dans l'Église, à travers vos parents, vos familles élargies, vos collègues de travail, etc. Là, vous pouvez tous penser à certaines situations. Pour les épouses puis pour les mamans, qu'est-ce qui, dans votre vie, vous préoccupe tellement que vous vous détourniez de vos responsabilités envers votre époux puis vos enfants? Qu'est-ce qui compte plus pour vous que de désirer le bien-être physique et spirituel de vos enfants avant le vôtre? Pour les jeunes puis pour les célibataires, là j'ai écrit jeune célibataire, là, mais c'est jeune et célibataire. On peut être célibataire et pas être jeune, on peut être jeune, bon. Oups, excusez. Qu'est-ce qui dans votre vie vous préoccupe tellement que vous vous détourniez de vos responsabilités envers vos frères et vos sœurs en Christ? Qui dit qu'il faut agir comme des adolescents jusqu'à 35 ans si je suis célibataire? Qu'est-ce qui compte plus pour vous que de voir le royaume de Dieu en conduisant vos familles, venir à Christ ou à maturer vos amis, de devenir dans votre église, de servir dans votre église? Qu'est-ce qui compte plus pour vous que d'être un témoignage fidèle par votre pureté sexuelle et morale? Qu'est-ce qui compte plus pour vous que de vous préoccuper des personnes les plus âgées en les visitant? Puis pour les personnes plus âgées, savez-vous que cette prière-là ne change pas? Je l'ai dit ce matin, qui dit qu'il y a une retraite dans la vie chrétienne? Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous préoccupe tellement que vous vous détourniez de vos responsabilités envers vos frères, vos sœurs plus jeunes? Qu'est-ce qui compte plus pour vous que de voir le royaume de Dieu avancer en conduisant des jeunes à Christ ou en leur permettant de grandir et maturer spirituellement en profitant de l'expérience spirituelle de votre vie chrétienne? Les choses qu'on prie, je pense que ça doit être aussi des choses vécues. C'est beau de dire des paroles à Dieu, mais quand on cherche à les vivre, ces paroles-là, ça devient toute une autre dimension, ça apporte toute une autre dimension. On prie. Seigneur, c'est un paquet de questions qu'on lance, Seigneur, qu'on veut faire réfléchir les gens dessus. Je te demande de nous amener à nous regarder nous-mêmes puis à regarder qu'est-ce qu'on remet devant toi, Seigneur, puis que tu nous donnes ton esprit afin de nous révéler ce qui ne marche pas, Seigneur, puis qu'on remette les yeux sur ce royaume-là éternel, sur ta volonté éternelle, Seigneur, ta volonté tout-puissante de Dieu créateur. On veut se plier à elle, Seigneur, parce que on sait que tu es pour toi-même, parce qu'on sait que Dieu est pour Dieu, puis que c'est la chose la plus satisfaisante qu'il y a, Seigneur, d'être pour Dieu. Change nos cœurs, Seigneur, dirige nos vies, et puis oriente nos vies, Seigneur, vers ton royaume, ta volonté. En nom de Jésus. Amen.